Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Publication mardi d'un document du Vatican sur les rapports entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Y sont abordés l'opportunité et les défis éthiques soulevés par l'intelligence artificielle. Poursuite de la visite de Mgr Paul-Richard Gallagher à la Principauté de Monaco. Nous ne voulons plus des morts, nous voulons chanter l'espérance. C'est le message qu'ont adressé les évêques des Côtes d'Ivoire au terme des travaux de leur 126e session ordinaire. Vous aurez les détails de tout ceci dans l'actualité de l'Église, qui nous conduira également au Tchad et en République démocratique du Congo, où la ville de Goma est sous les tirs avec risque de pénurie alimentaire. Outre la RD Congo, l'actualité sociale et politique en Afrique nous conduira également au Soudan et en Afrique de l'Ouest, où les trois pays de l'Alliance du Sahel AES ont officiellement annoncé leur sortie de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Nous conclurons notre édition par la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Renoncement et nomination d'évêques en Tanzanie. Le Saint-Père a accepté mardi le renoncement au gouvernement pastoral du diocèse d'Iringa au centre de la Tanzanie, présenté par Mgr Tarcisius Ngala Lekumtwa. Comme successeur, le pape François a nommé l'abbé Romanus Elamu Mihali du clergé de Mafinga. Il est actuellement vicaire épiscopal pour les clergés du diocèse de Mafinga et curé de la paroisse d'Ujewa. Un document du Vatican sur les rapports entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. C'est un dense document qui rejoint les magistères romains sur une des questions les plus brûlantes et clivantes de notre temps, l'opportunité et les défis éthiques soulevés par l'intelligence artificielle. L'Église y répond par le fruit d'une réflexion commune au dicastère pour la doctrine de la foi et à celui pour la culture et l'éducation qui ont produit un texte attendu d'une trentaine de pages. Il s'applique au domaine de l'éducation, de l'économie, du travail, de la santé, de relations internationales ou encore à la guerre. Intitulé « Antiqua et Nova », en référence à la sagesse ancienne et nouvelle, les textes adoptent naturellement une approche intégrale et prudente. Les comptes rendus de Delphine Allaire.
Il rejoint la cohorte de documents du Saint-Siège répondant aux signes des temps. Celui-ci fera date même si les défis éthiques de l'IA ne sont pas une préoccupation nouvelle du pontificat. François ayant promu le concept de l'algorithmique, organisé de nombreuses conférences et même participé au G7 spécialement sur ce sujet en juin dernier, en a fait un axe pionnier. Antiqua et Nova énumère avec un savant équilibre raisonné les dangers de l'IA, inégalité, monopole, développement de la guerre, mais aussi les progrès qu'elle encourage comme faisant partie de la collaboration de l'homme avec Dieu. Au cœur de la réflexion, des considérations éthiques et anthropologiques selon les différentes sphères de la vie où la dignité humaine pourrait être menacée par l'IA. Les relations humaines, oui à la favorisation des connexions, non à l'anthropomorphisation, problématique pour les enfants, bénéfique aux nouveaux emplois mais risquant la déqualification, amélioration de la santé mais solitude accentuée, fait notable les mentions de la surveillance numérique ainsi que des ressources énergivores de l'outil. Aquiné rappelle le Saint-Siège qu'un pâle reflet de l'humanité, l'IA ne doit pas nous rendre esclaves de notre propre travail, mais demeurer complémentaire à la richesse de l'intelligence humaine.
Merci Delphine. Mgr Paul-Richard Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales, séjourne depuis dimanche dans la Principauté de Monaco sur invitation du prince Albert II. Lundi, il a célébré la messe à l'occasion de la fête patronale de Sainte Dévote, rappelant le témoignage des sept martyrs. Il a dénoncé le fait qu'aujourd'hui encore, affirmer sa foi chrétienne peut conduire à des accusations de blasphème ou à la discrimination, à l'emprisonnement ou à la mort. Il a cependant invité à ne pas se laisser envahir par la haine. Mardi, Mgr Gallagher a rencontré des prêtres, des responsables des services diocésains, des religieux et religieuses. Les guerres et les conflits ne doivent pas sombrer dans l'oubli. Derrière les statistiques, il y a des vies humaines, a-t-il déclaré. La Méditerranée ne doit pas devenir un cimetière, a lancé Mgr Gallagher. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus des morts, nous voulons chanter l'espérance. C'est le message qu'ont adressé les évêques de Côte d'Ivoire au terme des travaux de leur 126e session ordinaire. Les prélats ont conclu leur assemblée par une messe célébrée à l'église cathédrale Sainte-Odile du diocèse de Bondoukou. L'Eucharistie a été marquée par la lecture d'un communiqué final dans lequel les évêques ivoiriens appellent leurs concitoyens à raviver l'espérance tant dans l'Église que dans la nation. À 9 mois des élections présidentielles, ils invitent les Ivoiriens à se tourner vers Dieu par la prière et le jeûne. Les comptes rendus de Marcel Ariston Blé.
La situation actuelle à l'approche des élections suscite des inquiétudes parmi les prélats. Ils ont attiré l'attention sur le fait que la nation ivoirienne se trouve à un tournant crucial en cette année jubilaire qui est aussi celle de l'élection présidentielle. Soucieux de la tournure des événements, les évêques ivoiriens ont annoncé qu'ils adresseraient prochainement une lettre pastorale à la nation. Cependant, ils ont pris acte de l'engagement du président de la République Alassane Ouattara à garantir des conditions équitables et transparentes pour tous les candidats, tout en exhortant la commission électorale indépendante à œuvrer pour des élections libres, équitables, transparentes, crédibles et inclusives, afin de renforcer la confiance des citoyens dans le processus. Électoral ont-ils invité. Considérant la politique comme une noble vocation pour la gestion du bien commun, les archevêques et évêques ivoiriens ont encouragé les hommes politiques à respecter les valeurs d'intégrité et de décence. Ils ont fermement condamné toute forme de vente ou d'achat de voix qu'ils jugent illégale et inadmissible, appelant ainsi les responsables politiques à s'abstenir de telles pratiques. Bien que les évêques reconnaissent qu'il ne leur appartient pas de dicter les choix des partis politiques en matière de candidats à la présidence, ils estiment avoir le devoir de conseiller les concitoyens afin qu'ils mesurent les implications de leur choix lors des élections. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
En N'Djamena, au Tchad, la clôture de la semaine des prières pour l'unité des chrétiens a été marquée par le lancement des activités du jubilé d'albâtre de la paroisse Saint-Paul des Kabalaï dans cette archidiocèse. Reportage d'Edouard Takadji.
Venus de différentes paroisses vicariales de l'archidiocèse d'N'Djamena pour la clôture de la semaine des prières pour l'unité des chrétiens, les fidèles ont rendu grâce à Dieu pour sa présence dans leur vie durant tous ces temps. Une semaine riche en activités allant de la neuvaine aux différents enseignements, la visite aux pauvres et aux malades. Le président de la célébration, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Edmond Djitangar, a centré son exhortation sur l'Esprit Saint. Il fait comprendre que sur chaque chrétien repose l'Esprit de Dieu depuis le jour de son baptême. C'est cet Esprit qui nous fait devenir fils et filles de Dieu et qui fait que l'Esprit de Dieu, comme Jésus, et nous donne la dignité des enfants de Dieu et qui fait de nous des frères et sœurs entre nous. C'est le même Esprit qui nous renvoie à continuer la mission que Jésus est venu commencer, précise Mgr Edmond Djitangar. Mgr Edmond Djitangar a insisté sur le social, demandant aux fidèles de son diocèse d'avoir un regard sur les plus démunis.
Il y a des gens qui pensent aux grandes choses, mais les petits, les pauvres qui sont abandonnés là. Si l'Église ne les regarde pas, qui va les regarder? Personne. Alors tant que nous sommes là, nous devons être attentifs à cela. Cette année de jubilé, mon vœu pour vous, c'est qu'elle soit une année de réconciliation, de rapprochement des cœurs pour être d'accord sur ce que nous pouvons faire ensemble. Que ce soit une année d'opportunité de faire encore plus d'efforts, même si nous sommes à 10, de continuer à agir pour que l'arbre qui a été planté ici ne meure pas.
Edouard Takadji N'Djamena, Radio Vatican.
Et en République démocratique du Congo, tandis que les combats se poursuivent à Goma depuis 3 jours, les dégâts humanitaires se comptent déjà en grand nombre. Bombardements aveugles, pillages des boutiques, intimidation des civils, attaques de plusieurs structures. C'est le cas du département des néonatologies de l'hôpital général de la ville. Des bombardements ont causé la mort de plusieurs nouveau-nés qui étaient sous couveuse. Dans son message adressé à la population de Goma, Mgr Willy Ngumbi, l'ordinaire du lieu, appelle au respect absolu de la vie humaine et des infrastructures privées et publiques et assure à toute la population de Goma de la proximité et de la compassion de l'Église, particulièrement envers les victimes de cette barbarie. Suivons les précisions de Christian Losambe.
C'est un champ de bataille qui s'est ouvert à Goma alors que des unités des FARDC, l'armée régulière de la République démocratique du Congo, tentent toujours de résister à la pression des rebelles du M23 et ses alliés rwandais, dont les quelques quartiers de la ville n'ont pris d'assaut. Et les dégâts humanitaires sont considérables, tels que le souligne Mgr Willy Ngumbi dans son message. C'est avec grande indignation que l'évêque de Goma dit avoir appris le bombardement, entre autres, du département de néonatologie de l'hôpital général Charité Maternelle, causant la mort des nouveau-nés, et celui de la concession de la procure diocésaine. Par ailleurs, des actes de pillage se multiplient, certains organisés par la population elle-même, ce qui aggrave la situation humanitaire déjà déplorable, fustige le prélat. Ainsi, Mgr Willy Ngumbi lance un appel au respect absolu de la vie humaine et des infrastructures privées et publiques. Un appel qu'il adresse à toutes les parties impliquées dans l'actuel conflit armé, ainsi qu'à la population, en vertu de la dignité humaine et du droit international. En outre, il assure à toute la population de Goma de la proximité et de la compassion de l'Église, particulièrement envers les blessés et les familles des victimes de cette barbarie. Mgr Willy Ngumbi conclut son message en demandant aux clergés et aux consacrés, de même qu'aux fidèles et à toute personne de bonne volonté, de bien vouloir prêter l'aide nécessaire à quiconque se trouve dans le besoin.
Christian Losambe. Restons à Goma, en République démocratique du Congo, pour ouvrir la page de l'actualité sociale et politique en Afrique. Des violents combats se poursuivaient mardi dans cette ville congolaise entre l'armée régulière et les groupes armés M23 appuyés par l'armée rwandaise. Au moins 17 personnes ont été tuées et 367 blessées dans ces combats, selon des bilans de plusieurs hôpitaux de la ville qui sont submergés. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU s'est dit mardi préoccupé par la pénurie des nourritures à Goma après l'interruption de ses activités dans cette grande ville. Le Comité international de la Croix-Rouge CICR a alerté mardi sur les risques de dissémination du virus, dont Ebola, à partir d'un laboratoire à Goma en raison des violents combats dans cette grande ville de l'est de la RDC. À Kinshasa, la capitale, plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda, ont été attaquées par des manifestants dénonçant ce conflit dans l'est du pays, selon des sources diplomatiques. Les ambassades de la France, de Belgique ainsi que des États-Unis ont également été ciblées, selon des témoins sur place. Ce 29 janvier, la nouvelle Alliance des États du Sahel, AES, qui regroupe les Burkina Faso, le Mali et le Niger, va officiellement quitter l'organisation régionale, la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les trois pays se sont concertés et sont prêts à négocier avec la CEDEAO pour leur sortie définitive. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Oui, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ont eu une convergence de vues sur l'approche globale des futures négociations avec la CEDEAO dans l'intérêt supérieur des populations, selon le communiqué final de la réunion ministérielle. Quel avenir pour une CEDEAO faisant face aux vives critiques des populations de ces trois pays et qui la qualifient d'instrument de l'Occident ? Une CEDEAO des chefs d'État et non une CEDEAO des peuples, disent-elles. Il y a quelques jours, la CEDEAO avait notifié les pays de l'AES pour enclencher des discussions en vue de leur retrait définitif. Les pays de l'AES, eux, semblent ne plus faire marche arrière, car décidés à s'émanciper, ils ont déjà présenté leur passeport. Ouagadougou, Lamine Traoré pour Radio Vatican.
L'Égypte a démenti mardi des informations faisant état d'un entretien téléphonique sur la situation dans la bande de Gaza entre le président Abdel Fattah al-Sissi et son homologue américain Donald Trump. Le président américain avait évoqué samedi l'idée d'un plan visant à faire le ménage dans la bande de Gaza dévastée par 15 mois de guerre. Il a dit vouloir envoyer les habitants du territoire palestinien vers l'Égypte et la Jordanie pour obtenir la paix, déclenchant une volée de dénonciations dans le monde arabe. Une nouvelle génération de Soudanais subit au Darfour le même enfer que lors de la guerre civile du début des années 2000, a dénoncé lundi le procureur de la Cour pénale internationale CPI qui prépare des demandes de mandats d'arrêt. Il est clair pour mon bureau qu'au moment où nous parlons, des crimes internationaux sont sans aucun doute en train d'être commis au Darfour, a déclaré Karim Khan, qui fait le point tous les 6 mois devant les conseils de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas une évaluation tirée d'informations non vérifiées, c'est une analyse pointue de mon bureau basée sur des preuves et des informations collectées et vérifiées, a-t-il insisté. Concluons notre édition par la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Parole à Marie-Josée Moindo-Boisboileau.
Commençons la rubrique avec l'index 2025 établi par l'ONG Porte Ouverte qui affirme que plus de 380 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et des discriminations en raison de leur foi. Pour la 12e année consécutive, l'index dresse le constat de l'augmentation de la persécution portée par la violence en Afrique subsaharienne et un durcissement du contrôle des églises en Asie centrale. Avec plus de 30 ans d'expertise, l'index mondial de persécution des chrétiens fait le classement des 50 pays où les chrétiens de toutes dénominations sont les plus persécutés. L'index étudie pour l'an 2025 la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. C'est une première en Inde. Un tribunal a condamné un couple chrétien à 5 ans de prison. Ils sont accusés d'avoir tenté de convertir des gens dans l'état de l'Uttar Pradesh, dans le nord de ce pays. Le 22 janvier, le pasteur José Papanchan et sa femme Shija Papanchan ont été aussi condamnés à verser chacun une amende de 25 000 roupies, soit 276 euros par un tribunal du district d'Ambedkar Nagar chargé de juger les crimes contre les castes socialement marginalisées. Le couple est accusé d'avoir violé la loi contre les conversions votée en 2021 par cet État indien. La loi a été modifiée en 2024 pour la renforcer avec l'ajout de la prison à vie dans le cas de certaines violations. Un responsable du parti Bharatiya Janata Party qui dirige le gouvernement de l'Uttar Pradesh a déposé une plainte contre le couple en janvier 2023 en les accusant de participer aux conversions religieuses de personnes d'origine sociale précaire telles que les Dalits. Retour au message du Saint-Père pour la 59e journée mondiale des communications sociales rendue publique le 24 janvier en la fête de Saint-François de Sales, patron des journalistes et veille de la célébration du jubilé du monde de la communication. François invite à désarmer la communication. Monseigneur Bruno Valentin, évêque de Carcassonne et Narbonne en France, explique ce que cela signifie.
Ce qu'on peut attendre d'un média catholique, c'est qu'il soit acteur et facteur de communion. C'est dans son identité de média catholique. C'est-à-dire concrètement, permettre dans sa ligne éditoriale, dans les tons mis en œuvre, dans la façon d'organiser la confrontation des points de vue dans le cadre de ces médias, permettre que toutes ces différences de sensibilité, d'opinion, se connaissent et se reconnaissent. Il ne s'agit pas de viser à une espèce de synthèse artificielle, ni même de vouloir à tout prix faire changer d'avis l'autre. Il s'agit de permettre de reconnaître ce qu'il peut y avoir de pertinent, de compréhensible dans l'opinion de l'autre, quand bien même c'est pas la mienne. C'est-à-dire sortir d'une vision, d'une opinion contraire à la mienne, forcément en termes d'affrontement.
Propos recueillis par Jean-Charles Pussolu. Construire une communauté authentiquement synodale qui marche avec le Christ vers l'humanité blessée et authentiquement missionnaire, capable d'annoncer l'évangile et d'apporter la consolation dans les difficultés et les défis du temps présent, marqués par un tragique conflit civil qui déchire la nation. C'est dans cet esprit que la communauté catholique de l'archidiocèse de Yangon au Myanmar s'est réunie lundi 27 janvier pour entamer une semaine d'études et de discussions afin de poursuivre et d'appliquer au contexte local les idées issues du synode sur la synodalité. Cette année, le nouvel an lunaire tombe le 29 janvier. Pour les communautés catholiques chinoises, il s'agit d'une occasion propice pour lancer des initiatives pastorales sous le signe de l'amitié et du partage. Des volontaires des paroisses du diocèse de Shanghai ont visité les bâtiments de leur quartier pour apporter à chacun le signe de bénédiction. Des prêtres, religieux, religieuses et laïcs conduits par l'évêque Mgr Joseph Shenbin ont parcouru les rues et les bâtiments pour apporter félicitations et bénédictions. Lors de la première journée nationale de la jeunesse qui s'est tenue récemment au Chili, l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de La Serena, Mgr Henry Joseph Balsan, a exhorté les jeunes à réfléchir aux marginaux d'aujourd'hui et à devenir des instruments d'inclusion et de soutien en suivant l'exemple de Jésus.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.